Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Alexandre, bonjour Franck et bonjour à tous.
Bonjour Louis.
Comment ne pas revenir sur ce fait divers qui cache en réalité un scandale d'État et qui secoue toute l'actualité depuis la semaine passée? Je veux bien sûr parler de Liana, ou comment une adolescente tuée par un pédocriminel repéré depuis longtemps est devenue le symbole d'une justice qui choisit ses cibles. Il n'y a qu'à entendre le témoignage sidérant de cet agriculteur sur CNews.
Pendant que le parquet tout entier, je ne vais pas nommer que la procureure de Auch, mais son parquet tout entier, qui avait bien des ordres plus hauts, ça c'est sûr, a fait des agriculteurs de notre département et même du département du 31 également, une priorité par rapport à un violeur pédophile qui se trimballait en liberté dans notre département, à quelques kilomètres de chez nous. J'ai fait 7 heures de garde à vue le 14 janvier à interpeller pire qu'un violeur, du coup, par la brigade de recherche de Toulouse, parce que j'étais à pied sur le rond-point de l'aéroport de Blagnac. J'étais simplement à pied, les mains dans les poches. Je me suis fait tomber dessus par 40 gendarmes mobiles et 2 enquêteurs de la brigade de recherche. Et là, on apprend qu'on avait ce pédophile, ce violeur, avec de multiples plaintes derrière lui depuis quelques années, dont une récemment, août 2025, c'est pas la procureure de Auch qu'il faut faire démissionner. C'est le parquet entier qui doit être démantelé et renouvelé parce qu'aujourd'hui, ils ont commis l'erreur irréparable qu'ils ne devaient pas commettre.
Démanteler le parquet tout entier, pourquoi pas? Mais malheureusement, je crains que, comme l'anticipe cet avocat sur CNews, rien ne se passe.
On va avoir droit à des rapports d'enquête administrative. On va avoir droit à des propositions de loi. On va avoir droit à des débats interminables sur ce qu'on pourrait rénover dans cette justice qui est en liquidation. Et puis ensuite, on aura la période électorale et puis probablement d'autres responsables politiques qui enterreront très rapidement tous ces rapports et toutes ces belles idées de ces grandes âmes qui voudront rénover la justice. Et il ne se passera rien. Et je vous donne rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et il ne se passera rien.
Rien, strictement rien. La France se distingue par sa faculté à ne jamais faire retomber les conséquences de l'incompétence crasse de ceux qui sont censés nous protéger. Aucune sanction, aucune démission. Et selon cet autre avocat sur BFM, le problème est bien plus grave qu'une simple erreur humaine.
Je suis effaré de la façon dont le garde des Sceaux communique, lui, son entourage. Ils ont l'air de découvrir ce qu'est le ministère de la Justice, que nous côtoyons, nous, au quotidien. Enfin, moi, des dossiers de ce type-là, j'en ai 10 dans mon cabinet. J'ai des dossiers qui sont perdus. Des magistrats qui me disent « je ne sais pas où est le dossier maître ». J'ai des dossiers où ça fait un an et demi qu'on est en attente d'une date de jugement parce qu'il n'y a pas de place, parce que l'audiencement n'arrive pas à trouver un calendrier. Je veux dire, ce dysfonctionnement, il n'est pas lié à Liana. Ils ont l'impression, ils font un focus comme si c'était ce dossier-là qui dysfonctionnait dans l'institution judiciaire. Cette institution, elle dysfonctionne structurellement et non pas conjoncturellement comme ils essayent de nous le faire croire. Il n'y a rien qui fonctionne. Le parquet ne fonctionne pas, les juges d'instruction ne fonctionnent pas, les officiers de police judiciaire, ça dysfonctionne. Ils ont des ordinateurs qui datent de Mathusalem. On ne peut pas déposer une plainte. Quand on dépose la plainte, elle est perdue. Il n'y a rien qui fonctionne.
Et un policier sur CNews confirme cette réalité en précisant que le cœur même de l'institution judiciaire est intouchable, car totalement verrouillé.
On est dans une situation où on a tellement un couvercle énorme qu'on ne peut plus rien faire. Ce système-là, le terme n'est pas bon, et je suis désolé, il n'est peut-être pas approprié, mais il est peut-être fort, mais il est verrouillé. Il est verrouillé, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où c'est un groupuscule, que je ne citerai pas, ça évitera les dépôts de plainte, un groupuscule qui gère le ministère de la Justice, et quel que soit le garde des Sceaux, eh ben, il ne fera pas de miracle, parce qu'il n'y a pas la volonté politique de changement dans sa globalité, comme disait M. Nolot.
C'est incroyable ce que vous dites là, hein, franchement. C'est très fort ce que vous dites quand même.
C'est la réalité.
C'est tout de même très inquiétant de se dire que rien ne changera. On a donc une institution qui s'effondre de toutes parts, et qui ne peut donc pas être sauvée. Et face à ça, que faire ? Pierre-Marie Sève de l'Institut pour la Justice appelle à prendre toutes les précautions possibles, quitte à devenir paranoïaque.
Et je considère personnellement, et ça c'est pas un avis de directeur de l'Institut pour la Justice, c'est un avis de papa, je suis père, j'ai 3 enfants petits. Je pense que nous ne sommes pas, de manière générale, dans la société assez paranoïaque sur ces sujets-là. Et je pense qu'il faut être paranoïaque, parce que les violences sexuelles contre des enfants, c'est pour moi, enfin, quand un enfant qui a été violé, je considère qu'il n'a plus de vie, il a des grandes, d'immenses difficultés à avoir une vie affective normale après.
Bien sûr. Bien sûr.
Et donc, et
les conséquences, elles sont dévastatrices.
Elles sont dévastatrices. Similaires pour moi à un meurtre.
Une recommandation dérangeante, mais nécessaire. Surtout quand on voit comment certaines décisions de justice frisent l'absurde. Écoutez l'anecdote de ce général de gendarmerie, c'est accablant.
Sur une affaire de pédophilie chez un magistrat pour laquelle j'avais été saisi à la section des recherches d'Orléans, on avait retrouvé plus d'un million de photos et de vidéos pédopornographiques chez lui. Il y a eu une instruction, la sanction a été de 1000 euros d'amende.
Bon, combien ?
1000 euros d'amende.
Voilà. 1000 euros d'amende, oui, pour la détention d'un million de clichés pédopornographiques.
Absolument, d'accord. Pour la détention.
Pas de prison avec sursis, rien
non,
du tout.
Non, non, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une sanction significative, ouais, mais ça n'a pas été le cas.
Révoltant. Et si par miracle, ce type d'individu parvient malgré tout à être condamné et envoyé en prison, il y a désormais une nouvelle parade pour être lavé de tous ses péchés, selon le journaliste Dominique Rizet.
Parce qu'ils sont en prison, les pédocriminels, de se cacher, vous savez, et de trouver des astuces. Vous savez qu'il y en a plein, et ensuite j'en termine rapidement, à l'époque où on leur donnait des coups d'épaule en prison ou un coup de poing dans un couloir, qui se sont convertis. Ils se sont convertis à l'islam parce qu'on considère que la vie commence au moment où on s'est converti et que tout le passé n'existe plus. Et donc ils se sont retrouvés protégés en prison, il y en a plein qui l'ont fait, par les frères, par leurs copains musulmans.
Voilà. Et l'immigration de masse a parfois des conséquences qu'on ne voit pas venir. Et côté politique, les questions légitimes se posent, même les plus sensibles. Pour la première fois, depuis longtemps, un parlementaire en poste a assumé clairement sur nos antennes, dans l'émission On ne va pas se mentir, qu'il fallait rétablir la peine de mort.
Est-ce que vous pensez qu'on doit remettre la peine de mort ou non ?
Oui.
Sur quelle base ?
Sur les crimes. Ah, sur quelle base ? On est dans un pays où on n'a aucun problème à tuer jusqu'ici. On a l'avortement, on a l'euthanasie. On a les assassinats commandés par le président à l'étranger. On ne s'est pas gêné pour aller tuer des Français en Syrie, que je sache. Alors qu'on n'était pas en guerre avec eux, officiellement. Donc ça, ça ne gêne personne. La peine de mort, c'est se dire on a un individu qui, un, n'est pas réintégrable dans la société, qui, deux, n'a aucune considération pour la société. À quel moment la société devrait avoir un minimum de considération pour elle ?
Donc il y a des peines sur lesquelles on doit imposer la peine de mort pour vous ?
Il y a des peines où ça doit être une faculté.
Ce serait lesquelles ?
Comme auparavant, les peines les plus graves. Vous prenez les dernières peines de mort qui ont été exécutées dans notre pays, vous regardez les cas, hein, en particulier, c'est souvent des meurtres avec viol d'enfants, assez très très sordides, et vous vous posez la question. Moi, ça ne me choque pas.
Et le député Alexandre Allégret-Pilot rejoint l'avis de beaucoup de Français face à cette justice laxiste. Mais sans aller jusqu'à la peine de mort, il existe une décision bien plus réaliste, la démission de Macron. Et c'est Philippe de Villiers qui l'appelle de ses voeux.
Je ne vais pas être gentil, mais je ne suis pas là pour ça. Il parle de responsabilité, l'honneur de la politique. Et je sais ce que c'est, j'ai été un homme public pendant longtemps. L'honneur de la politique, c'est qu'on assume sa responsabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le mot démission. Quand on ne veut pas assumer sa responsabilité, ou que le peuple vous renvoie. Parce que là, il est à la tête de l'État au nom de toutes les familles de France. Et on a vu depuis 10 ans comment tout s'écroule. C'est le commandant du Titanic qui vient nous expliquer à la télévision « Je ne comprends pas comment le Titanic a pu couler. » Mais bonhomme, c'est toi qui commandes, avec tes flûtistes là, Darmanin et les autres. Et donc, moi, je demande de manière solennelle, personnelle, et au nom de beaucoup de Français, Monsieur le Président, il faut partir.
En fait, cette affaire Liana a exaspéré tout le monde, tant elle révèle l'incompétence teintée d'impunité totale de notre système judiciaire. Le député Laurent Jacobelli le résume parfaitement et pointe le rôle déterminant de Darmanin dans tout ce scandale.
Une fois encore, cet individu qui, par de nombreuses fois, a été soupçonné d'avoir des rapports troubles, je vais être très prudent, avec les enfants, n'a jamais été entendu par la justice. Alors moi, je pose plusieurs questions. Pourquoi, je le répète, ce même procureur a convoqué des agriculteurs qui avaient manifesté, apparemment c'était en haut de sa pile, et pas ce violeur d'enfants présumé. Pourquoi ? Oui, on veut des réponses. Et moi, j'aimerais parler de Gérald Darmanin, qui semble, et vous l'avez bien dit, madame, découvrir qu'il y a des dysfonctionnements dans notre justice.
Alors, il n'a pas découvert qu'il y avait
c'est
des dysfonctionnements.
C'est très bien qu'il fasse une enquête.
Voilà, la voix que vous venez d'entendre pour défendre Darmanin est la même qui coupera net la journaliste Laurence Beneux, qui a osé mettre sur la table ce que tout le monde sait, mais dont personne ne parle.
il y a une responsabilité politique qui est absolument écrasante. Il y a un manque de volonté politique depuis des décennies. Moi, quand je vois Gérald Darmanin et Emmanuel Macron qui s'indignent sur des dysfonctionnements comme si d'un seul coup ils découvraient que la Lune existe, mais je crois rêver. Vous voyez, d'ailleurs, en parlant de dysfonctionnement, Emmanuel Macron, quand il s'agit de sa femme, ça l'a pas tellement dérangé, hein.
On va pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire très exactement?
Je veux dire qu'un prof, et c'est depuis tout le temps, la majorité sexuelle quand une personne a autorité, c'est 18 ans, et qu'un prof qui séduit son.
Bon, alors c'est un autre sujet.
Parce que ça envoie un message d'impunité.
Là, c'était une autre époque aussi. Je ne sais même pas si la majorité sexuelle était à 16 ans.
Ça envoie un message d'impunité qui est quand même. Mais c'est toujours interdit, hein.
Alors, bon, la relation était, je crois, clairement consentie. C'était une autre époque. On s'interrogerait sûrement différemment aujourd'hui. Et néanmoins, j'entends votre point, mais non, mais il ne sera pas approfondi sur ce plateau.
Voilà, on sent le malaise sur le plateau. Le sujet qui plane, mais qu'on ne veut surtout pas effleurer. Et malgré notre légitime révolte de façade, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Comme en témoigne cette archive d'une sénatrice macroniste qui, en toute décontraction, parle d'enfants et de consentement.
Il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, faut pas l'oublier. Donc déjà, un seuil, c'est un progrès. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, eh bien oui.
Madame Billon, excusez-moi. Là, c'est Bruce Toussaint qui vous parle. Hein. Je suis désolé, vous entendre dire à l'antenne que des enfants sont consentants, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème et je suis désolé, mais ça, non. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est votre liberté de le croire, mais c'est ma responsabilité à moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser. Je ne vous censure pas. Je vous dis juste que ça me pose un problème et que ça me semble vraiment très très dérangeant de dire une chose pareille.
Entre autres paroles dégueulasses, j'aurais pu revenir sur le revirement pitoyable de Yael Braun-Pivet, qui, après avoir refusé une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, veut maintenant faire de la protection de l'enfance une priorité nationale, ou encore sur ces gauchistes qui nous crachaient dessus et nous accusaient de récupération lors du meurtre de Lola, mais qui récupèrent aujourd'hui à leur tour l'affaire Liana pour dénoncer le patriarcat, le tout avec la complicité des médias. J'arrête ici les rimes et ma chronique, mais soyez sûrs d'une chose, l'hypocrisie, elle, continuera.
Mais voilà. Gardons espoir,
Gardons espoir, toujours, bien sûr. Hein, jusqu'à la semaine prochaine.
De toute façon, on est là pour dénoncer cette hypocrisie. Heureusement qu'on est là. Merci beaucoup et heureusement que vous êtes là. Merci beaucoup,
Louis Godier. Merci,
Alexandre. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Éric Branca. Éric Branca, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment évidemment L'ami américain, mais également De Gaulle et les Français libres chez Albin Michel en 2010. Et De Gaulle et les grands, c'était chez Perrin, qui avait été réédité chez Tempus, voilà, si je ne dis pas de bêtises, en 2024. Ainsi, auteur aussi également de La République des imposteurs, toujours chez Perrin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, on va faire un entretien un petit peu en deux volets. D'abord, enfin, surtout parler du film La Bataille de Gaulle qui est sorti donc il y a maintenant une semaine, film donc qui a suscité beaucoup de réactions, et c'est peut-être ça la deuxième partie de cet entretien pour savoir finalement ce qui reste de la mémoire du général de Gaulle. Tout d'abord, vous avez donc vu ce film qui raconte, alors c'est un film en deux volets, et qui raconte la première partie de ce film raconte donc justement tout le début de la résistance et toute la manière dont ça se met en place. Alors ça commence évidemment par l'effondrement finalement de la France. Déjà, sur un point de vue peut-être purement cinématographique, comment vous avez vu ce film ?
Alors, je vais vous faire une réponse très contrastée, parce que le film est très contrasté. Et il est très contrasté, si j'ose dire, aux deux extrêmes. Cinématographiquement, c'est remarquable. Les reconstitutions sont remarquables. Il y a beaucoup d'images de synthèse, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, quand ça permet de montrer la bataille de France telle qu'elle a été, avec de vrais chars français, de vrais avions allemands, c'est très rare. Donc, ça, historiquement, c'est remarquable. C'est servi par des acteurs formidables, formidables. Simon Abkarian dans le rôle de Gaulle, remarquable, très émouvant. Majumel dans le rôle de Koenig, remarquable aussi. Leclerc, c'est son sosie, je ne connaissais pas cet acteur, il s'appelle Neil Schneider, c'est son sosie. dans le rôle de Darlan, c'est Mathieu Kassovitz, qui ne lui ressemble pas, mais qui est excellent, donc ça fait oublier tout ça. Donc, rien à dire du point de vue des acteurs qui sont talentueux, des détails qui sont magnifiquement reconstitués. Mais alors, et c'est là que je vais à l'extrême de la critique, c'est parfois n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a une rigueur du détail qui est formidable, et puis alors des faits qui sont littéralement déformés, alors, et d'autres inventés.
Justement, c'est peut-être là on va évidemment faire appel à l'historien directement, mais concrètement, est-ce que quelqu'un qui va voir ce film voit vraiment un film historique, presque un documentaire d'une telle façon, ou alors est-ce qu'il y a une part de fiction justement dans tout ce qui est montré à l'écran?
Il y a une part de fiction, bien sûr, mais ça, à la limite, si la fiction aidait à comprendre, ça ne serait pas grave.
Oui. Vous voyez, c'est des arrangements, ça va.
Il y a des licences poétiques, voilà. Bon, il y a un très grand film sur Churchill qui a été fait il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Les Heures Sombres, qui est, la matière historique est parfaite, mais ils ont ramassé des situations. Oui. Ça, ce n'est pas grave, il faut bien montrer. Mais alors, quand, par exemple, vous voyez que De Gaulle a été remplacé pendant quelques jours ou quelques semaines par l'amiral Muselier, mais c'est totalement faux. C'est vrai que Churchill, qui était dans une de ses colères, dans une des disputes homériques qu'il a opposées à De Gaulle, cherchait à le remplacer par quelqu'un de plus malléable. Mais s'il l'avait remplacé par quelqu'un d'autre, ça aurait jamais été Muselier, puisque Muselier avait été celui qui avait rallié les Saint-Pierre et Miquelon à la France libre, contre l'avis des Américains, que Churchill, pardon du terme, s'était fait engueuler par Roosevelt, ce qu'on voit d'ailleurs fort bien dans le film. Et c'est pas lui qu'on serait allé chercher. Donc c'est n'importe quoi. Et puis il y a autre chose. La première scène du film, très bien reconstituée, c'est la bataille de Montcornet.
Quand
De Gaulle finalement remporte la seule victoire de la bataille de France, qui est une goutte d'eau dans l'océan de la défaite, parce que ça ne change rien. Mais enfin, il montre que ses théories sur les chars étaient les bonnes.
Et oui, c'est quelque part le début de la validation du mythe gaulliste d'une certaine façon. C'est-à-dire que sa légitimité se forge à Montcornet.
Donc ça, absolument. Enfin, sa légitimité historique, mais politiquement, ça n'a pas tellement d'importance à l'époque, et stratégiquement encore moins. Et donc, la deuxième scène, c'est De Gaulle qui rencontre Churchill, et la troisième scène, c'est l'appel du 18 juin. Et on ne comprend pas comment De Gaulle connaît Churchill, comment il peut être admis à parler à la BBC et à lancer son appel à la résistance, etc., si on ne dit pas qu'entre-temps, il est rentré au gouvernement, il est devenu sous-secrétaire d'État à la guerre, et par conséquent, il a rencontré Churchill plusieurs fois.
Quatre fois. Parce qu'effectivement, alors il y a toute une phase qui est très importante, justement, dans cette guerre contre l'Allemagne. Alors, ça se passe en quelques semaines, bien sûr, mais entre plusieurs renversements de gouvernement, changements de ministre, etc.
Oui, de remaniement.
Remaniement, enfin voilà. Ce qui se passe durant cette période, c'est que effectivement, on voit plusieurs inflexions de la part du gouvernement. D'abord, qui pense pouvoir finalement se rattraper, et puis finalement qui apprend qu'il doit fuir Paris. Ensuite, justement, qui cherche une solution, et puis finalement, personne ne se présente comme étant une vraie solution. C'est ça qui se passe à ce moment-là. En fait, la défaite stratégique et militaire est tellement immense que finalement, dans tous les cas, les marges de manœuvre de ce gouvernement sont encore très faibles.
Il n'y avait qu'une chose à faire, c'est ce que voulait De Gaulle, et c'est ce que Reynaud a essayé de faire, et puis s'est laissé complètement circonvenir par l'entourage défaitiste qui était le sien, notamment les conseils de sa maîtresse, Madame de Porte, qui n'avait qu'un rêve, c'est qu'il démissionne, ce qu'il a fait, et qu'il parte à Washington et qu'il devienne ambassadeur de France et du maréchal Pétain à Washington, ce qu'il n'a pas pu faire. Mais la solution, c'était de passer en Afrique du Nord, puisque la guerre était perdue militairement. Tout le monde en convenait. On ne peut pas reprocher à Pétain d'avoir fait cesser le combat. Pétain a fait ce qu'il devait. En revanche, ce qu'on peut lui reprocher, et ce que De Gaulle lui reprochait, c'est d'avoir laissé le gouvernement français à la portée des Allemands, et donc d'avoir négocié l'armistice sous la pression allemande. Alors que si le gouvernement était passé en Afrique du Nord, c'était tout à fait différent. Il fallait cesser le combat sur le terrain, mais il fallait continuer la guerre outre-mer, grâce à l'Empire. C'est ce que voulait De Gaulle. C'est absolument fondamental dans l'opposition entre De Gaulle et Vichy.
Mais
et
pour bien comprendre, je suis désolé de venir sur ce point, mais pour bien comprendre, c'est-à-dire que la bataille en France était effectivement, sur le territoire métropolitain, était effectivement perdue. Mais en réalité, le général De Gaulle, à ce ce moment-là, est-ce que ce qu'il cherche à faire, c'est quelque part poursuivre la guerre, effectivement, depuis l'Afrique du Nord, ou alors c'est faire une armistice sur le sol métropolitain et continuer la guerre sur le sol d'Afrique du Nord? Est-ce qu'il cherche la guerre, enfin, est-ce qu'il a déjà l'idée de la résistance à ce moment-là?
Ah,
ou
bien
alors,
sûr, oui. Bien sûr, son idée, il avait plusieurs idées. La première, ça a été le réduit breton. On remet absolument tout ce qu'on a de disponible, et on avait beaucoup de choses disponibles, et notamment en zone sud, beaucoup d'avions, beaucoup de chars qui n'avaient pas été utilisés. Donc, le réduit breton. Et puis, les Allemands sont arrivés tellement vite qu'on a oublié ça, et que l'idée était le transfert de, du gouvernement en Afrique du Nord. Et puis, comme ça n'a pas été fait, il va avec plusieurs fois à Londres, voir Churchill, lui demander des avions. Churchill dit « je peux pas ».
Il accepte, je crois, Churchill, de lui laisser quelques avions au bout d'un moment. Mais
enfin, pas suffisamment. Ouais. Les Allemands étaient maîtres du ciel. Et puis, son deuxième voyage à Londres, ça se passe le 13 juin, il lui demande des bateaux pour organiser le transfert non seulement du gouvernement, mais toutes les troupes disponibles. Mmh. Nous avons encore 400 000 soldats armés de pied en cap, des millions de pièces de munitions en Afrique du Nord. Donc on peut continuer le combat. Et quand il revient de cet aller-retour à Londres, eh bien, il s'aperçoit que Reynaud a démissionné, que le maréchal est devenu président du Conseil et que l'armistice va être signé. Et c'est là qui décide de partir à Londres, puisque l'Afrique du Nord, ça ne sert plus à rien. Voilà.
Et alors, justement, bon, alors, un des points centraux quand même du film, c'est aussi la relation entre De Gaulle et Churchill. On commençait à en esquisser, effectivement. Au début, il n'y a pas de mésentente, effectivement. Au début, Churchill a plutôt du respect pour De Gaulle qui veut poursuivre le combat. Et effectivement, enfin, justement, qui est pas défaitiste, contrairement à une bonne partie de l'entourage de Renault, vous l'avez dit. Comment est-ce que les relations se mettent vraiment en place, se tendent aussi au fur et à mesure?
Alors, Le respect de Churchill pour De Gaulle n'a jamais cessé. Simplement, il y a eu des tensions très rapidement à cause des Américains, tout simplement, à cause de l'allié américain qui réclamait toujours plus à Churchill, qui le tenait, Churchill, par les prêts qu'il lui faisait, n'est-ce pas? Les Américains ont financé la guerre de l'Angleterre jusqu'à leur propre entrée en guerre en 1941. Mais ils ne voulaient surtout pas se fâcher avec Vichy, car ils avaient de très bons rapports avec Vichy. Et De Gaulle réclamait toujours plus. Donc ça, évidemment, ça ne fonctionnait pas. Mais la première rencontre entre De Gaulle et Churchill, on aurait pu la montrer, parce qu'elle est très cinématographique. C'est pas la peine d'inventer des choses quand les faits eux-mêmes sont cinématographiques. Churchill vient en France assister à un comité de guerre franco-britannique, et puis il voit ce grand général qui est tout seul dans un coin, etc. Il passe devant lui et il dit « l'homme du destin ». Il le raconte dans ses mémoires. De Gaulle s'en est pas souvenu. Il a été interrogé après la guerre par Henri Amouroux, quand il a fait son livre sur le 18 juin, et il dit « je m'en souviens pas, mais enfin je sais qu'on a eu de très bons rapports immédiatement ». Puis il se rencontre plusieurs fois à Londres, etc. Et De Gaulle est vraiment le favori de Churchill. Alors Churchill aurait préféré avoir quelqu'un sans doute de plus gradé, de plus connu, plus officiel, mais personne n'est venu à Londres, personne. Et donc
oui, parce que un thème central du film, c'est quand même la solitude quand même.
Alors ça, c'est très bien vu.
De De Gaulle quand même. C'est-à-dire que c'est un homme qui est seul à Londres, mais qui est également seul dans sa vie en général, parce que finalement il y a très peu d'hommes qui sont d'accord avec lui et qui ont peut-être sa hauteur de vue.
C'est vrai. En fait, il est incompris depuis 1934, depuis qu'il a fait son livre qui s'appelle « L'armée de métier », où il prônait donc la création d'un, ce qu'on appelle le corps cuirassé, c'est-à-dire des divisions blindées autonomes. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Ce qui est fantastique dans l'affaire de Gaulle, c'est qu'à mesure ou à proportion que les Français rejetaient De Gaulle, les Allemands, eux, le lisaient. Quand en 1945, la deuxième DB va arriver à Berchtesgaden, chez Hitler, et va s'emparer de la bibliothèque d'Hitler, on va trouver l'armée de métier traduit en allemand dans une traduction de 1935, annotée de la main d'Hitler.
Le général
Guderian, en 1935, fait un papier dithyrambique dans la presse allemande sur ce livre qui, dit-il, montre que la France est dangereuse. Tu parles ? La France n'avait rien de dangereux parce qu'elle avait rejeté les idées de De Gaulle. Ouais. Donc il était effectivement très seul dès avant la guerre. Les premiers jours, la solitude à Londres, elle est très bien montrée. mais on ne comprend pas comment, deux ans après, ça peut être Bir Hakeim, cette formidable bataille de Bir Hakeim où les Français libres ont été très importants.
Oui, alors, et justement, alors, il y a quelque chose déjà qui se passe entre-temps, c'est le début de la mise en place de la résistance. Alors, le film utilise donc le personnage de Fernand Bonnier de La Chapelle.
Ça, c'est un parti pris, bon.
Qu'est-ce que alors justement, ce que j'allais vous demander, c'est pourquoi lui et pas d'autres, d'autres résistants, effectivement, parce que dans le fond, on sait qu'il y a plusieurs résistances. On sait qu'il y a la résistance qui s'organise depuis la droite, la résistance aussi des communistes qui vient dans un second temps aussi. Enfin, en réalité, finalement, quelle, enfin, il y a une pluralité de résistances sur les. Enfin, comment De Gaulle met en place justement une résistance qui va s'appuyer sur différents bords politiques, différentes chapelles.
Alors ça, c'est ça. Il faudrait une émission entière. Oui. Mais c'est vrai que la résistance, elle commence spontanément de différents bords, comme vous l'avez très bien dit. Et le grand fédérateur, celui que Malraux a appelé le Carnot de la résistance, c'est Jean Moulin qui crée le CNR qui va justement mettre tout ça en place. Mais Le parti pris de Bonnier de la Chapelle, c'est très curieux. Il est bien joué, le personnage, mais il n'a eu aucune action personnelle dans la résistance, sauf celle de tuer Darlan le 25 décembre 1942.
Donc Darlan, c'est... pour rappeler peut-être à nos auditeurs, donc, qui était effectivement ministre de l'Intérieur.
Non, Darlan était l'amiral de la flotte. Oui, il avait été président du Conseil du Vichy. Il avait remplacé Laval, puis Laval l'avait remplacé. Et il se prenait pour le dauphin du maréchal Pétain. Oui. Et quand il y a. Alors, il avait été. Un très grand collaborateur.
Un ministre de la Marine, pardon, c'est ça que je voulais dire. Oui, pardon, excuse-moi. Oui.
Très grand collaborateur des nazis. Il avait, c'est lui qui avait d'ailleurs donné les aéroports français du Levant à Hitler pour lutter contre l'Angleterre. Vous voyez, c'était vraiment quelqu'un de très engagé du côté de l'Allemagne. Et au moment du débarquement à Lyon, Afrique du Nord, en novembre 1942, il se trouve là. Il se trouve là et il est choisi par les Américains, pour incarner la légalité du pouvoir en France, alors qu'il était le dauphin du maréchal, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris Darlan ? Comme ils ont pris Giraud, mais surtout Darlan, c'est parce qu'ils savaient que c'est quelqu'un qui avait tellement à se faire pardonner qu'il serait aux ordres, le doigt sur la couture du pantalon. Et il est assassiné par Bonnier de la Chapelle, qui est un étudiant de droite, monarchiste, très courageux, mais qui n'a eu aucun rôle dans l'organisation de la résistance à partir de 1940. Alors on voit Moulin, alors je ne sais pas si on en parle davantage, sans doute, dans la deuxième partie du film que je n'ai pas vue parce qu'elle sort en juillet, mais s'agissant de Bonnier, voilà, c'est un parti pris cinématographique parce que c'est centré sur ses rapports avec Darlan, qu'il déteste, qu'il ne connaît pas, mais qui déteste, qui incarne pour lui ce qu'il y a de pire, alors qu'il y avait pire que Darlan, c'était Laval. Et Laval, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Or, c'est lui qui va concentrer toute la détestation des Français contre la collaboration. Puis vous avez une scène incroyable, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, en Conseil des ministres à Vichy, alors que Laval est président du Conseil, on ne voit pas Laval, et on voit le maréchal qui se tourne vers Darlan et qui dit à Darlan « vous feriez un bon Premier ministre alors ». C'est consternant, si vous voulez, parce que autant de détails rigoureux pour des scènes aussi surréalistes et impossibles à imaginer, c'est curieux.
Oui, des partis pris qui finalement relèvent presque, qui sont finalement incompréhensibles, vous le dites. Il y a aussi un personnage qui est, vous l'avez dit, joué par Benoît Machimel, le colonel Koenig, qui est inconnu des Français en fait aujourd'hui.
Oui, on le connaît moins, le général Koenig.
Très peu, comme ça. On connaît Leclerc, on connaît quelques-uns, mais c'est vrai que le colonel Koenig, moi je vous avoue que effectivement, un nom que j'avais déjà lu, mais qui n'était pas du tout dans mon, dans le panthéon de la résistance.
Absolument essentiel à Bir Hakeim, vraiment essentiel parce que les Français libres, qui étaient 10 fois inférieurs en nombre à l'Afrika Korps, ont bloqué l'Afrika Korps de Rommel, qui fonçait vers l'Égypte, qui fonçait vers El Alamein, et dans sa correspondance, Rommel reconnaît qu'il a eu un rôle absolument décisif. Et il rend hommage aux Français libres. Quant à Montgomery, qui était pourtant un orgueil pyramidal, si j'ose dire, il reconnaît aussi le rôle essentiel des Français libres parce que ça a permis aux Anglais de se regrouper et de tenir tête et de gagner sur le fil El Alamein en septembre 1942. Ça, c'est grâce aux Français libres et c'est très très bien vu. La bataille de Bir Hakeim est reconstituée avec certainement aussi des images de synthèse, mais franchement, c'est...
Malheureusement, on n'a pas encore le budget d'Hollywood pour réaliser
ce... Je pense que ça coûte même très cher.
Mais effectivement, je vais vous retrouver le chiffre du budget pendant la prochaine question.
Je crois avoir lu que c'était 70 millions.
Je vais vous utiliser un ignoble anglicisme à dessein. Je vais fact-checker ça dans un instant. Effectivement, maintenant, on peut peut-être passer sur cette deuxième partie de l'entretien quelque part. Évidemment, donc, le film a reçu une promotion importante. Et alors, ce qui a beaucoup marqué, je pense, beaucoup d'auditeurs ou de potentiels téléspectateurs, ce sont les propos de l'acteur principal, M. Carillon, qui a tenu des propos, on va dire, pour faire simple, anti-extrême droite, très spontanément, alors qu'effectivement, il incarne le général de Gaulle. Qu'est-ce que vous en avez pensé, finalement, de cette prise de position d'un acteur qui a presque encore le costume du général de Gaulle quand il va prononcer ces mots?
Alors là, je suis très étonné parce que je n'ai pas pris connaissance de ces déclarations.
Ah, pardon. Effectivement, donc, qui déclarait que finalement, jamais il ne pourrait cautionner ce qu'a fait le Rassemblement National et que pour lui, justement, De Gaulle n'était pas du tout assimilable justement à ce qu'est le Rassemblement National aujourd'hui.
De toute façon, à 80 ans de distance, rien n'est assimilable à rien. Enfin, je pense qu'il s'est fait complètement manipuler, cet homme-là.
84 millions d'euros, et c'est encore plus.
Parce que les premières déclarations que j'ai entendues de lui sur le personnage de Gaulle étaient plutôt sympathiques. Bon, bah là, qu'est-ce que vous voulez? C'est le passage obligé sous les fourches caudines du politiquement correct. Vous savez, De Gaulle, il ne s'opposait pas à l'extrême droite, il ne s'opposait pas à l'extrême gauche, il défendait la France et il a reçu à Londres des gens qui, surtout au début, étaient de droite. Après, vous avez eu des communistes, etc., bien sûr, mais au début, c'était essentiellement la droite nationaliste, y compris des gens qui avaient été des cagoulards avant la guerre. À Londres, y a eu de tout, et au départ, il y avait des gens qu'on qualifierait aujourd'hui d'extrême droite. Quand vous prenez quelqu'un comme Loustano Lacco, etc., qui faisait partie de la cagoule, des résistantes... on va pas citer des noms qui seraient pris... Ça serait pris désagréablement aujourd'hui.
Mais même le colonel de la Roque ou d'autres, effectivement...
Oui, bien sûr. De la Roque, il a fini déporté, mais ça n'a pas été un résistant de légende. Et Loustano Lacco était quelqu'un de la cagoule.
Oui.
Bon, avant-guerre. C'était pas vraiment un trotskiste. Alors, c'est insensé. Insensé.
Et d'une certaine façon, ce qui est assez frappant, bon, alors déjà, on peut saluer, je pense, sur le principe, le fait qu'un film ait été réalisé, donc, sur ce personnage aussi.
Sur le gaullisme de guerre et sur la France libre, parce que c'est très rare. On a fait beaucoup de choses sur la résistance, on n'a jamais fait mieux que l'Armée des Ombres de Melville, mais il y a eu très beaux films sur la résistance, mais sur vraiment.
Sur la collaboration avec Les Rayons et les Ombres, dont on parlait il y a quelques mois à cette antenne aussi.
Bien, et je persiste à en dire du bien. Parce que là, il n'y a pas une erreur. On peut même reprocher d'avoir été presque trop exact et trop rigoureux. Il y a quelques longueurs. Mais au moins, on ne peut pas les prendre à défaut d'approximation.
Voilà.
Alors que là, c'est pire que de l'approximation par moment. Et j'y reviens parce que ça m'a étonné. C'est ce mélange de précision dans le détail et de n'importe quoi. Pour les scènes importantes.
Écoutez, au moins, est-ce qu'il y a d'autres scènes pour que nos auditeurs qui ne sont pas encore allés voir le film, d'autres scènes qui vous ont un petit peu frappé dans ce sens-là et peut-être pour les prévenir,
en bien ces ou auditeurs en mal.
Sur ces scènes d'incohérence, au moins qu'ils soient au courant qu'il y a certains éléments qui ne seront pas historiques.
Par exemple, Churchill, bon, tout le monde sait que Churchill était alcoolique.
Oui.
Il ne s'en cachait absolument pas. Mais enfin, Churchill n'est jamais venu avec une bouteille de whisky au Conseil des ministres. Enfin, c'est insensé.
Il l'avait déjà dans le Conseil des ministres, il l'a porte pas.
Vous le voyez, au comité de guerre, au conseil des ministres, avec son verre en face de lui. C'est insensé, on n'a pas besoin d'exagérer. Churchill, d'ailleurs, je trouve qu'il est presque trop... Il est très bien joué, la voix est parfaite.
Par contre, il avait toujours un cigare à la bouche.
Un cigare à la bouche, et là, on le voit moins.
Et effectivement, je reviens un petit peu sur cette question de la mémoire. Ce qui est fascinant, c'est que le général de Gaulle... par son rôle durant la résistance quand même, finalement, aujourd'hui, reste une figure exceptionnellement peut-être le fédéraliste, peut-être la figure la plus fédératrice de l'histoire de France aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui est dû uniquement ou essentiellement à son rôle dans la Résistance, ou alors est-ce que son rôle en tant que chef de l'État va confirmer ça, ou au contraire l'infirmer, justement, cette capacité d'union nationale? Mais je pense que, honnêtement, aujourd'hui, si on fait un sondage auprès des Français, sans doute que 90% d'entre eux apprécient le général de Gaulle au minimum.
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement l'image qu'ont les Français. Évidemment, l'appel du 18 juin, la Résistance, c'est pour beaucoup. Je crois que le souvenir des 30 Glorieuses, en tout cas de la période des 30 Glorieuses où il a été là, rendent les Français un peu nostalgiques. Je crois que les grandes querelles autour de l'épuration et de l'Algérie qui ont divisé les Français s'estompent, parce que même si les cicatrices restent, ses motivations deviennent plus claires. Donc ça, je crois, vous avez tout à fait raison, mais il ne faut pas confondre ça avec un autre phénomène qui est un phénomène de récupération politique et qui serait, si j'ose dire, un hommage du vice à la vertu.
J'allais y venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tous les partis politiques, peut-être à part la France Insoumise et les écologistes, vont se réclamer du gaullisme. Même le Parti Socialiste fait appel à l'héritage gaulliste. C'est quand même tous, sinon.
Oui. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un hommage du vice à la vertu, puisque la plupart de ces gens-là, y compris ceux qui se réclament historiquement du gaullisme, qui s'appelle LR, maintenant qui s'appelait UMP avant, qui s'appelait RPA encore avant, n'ont cessé de le trahir. Quand on a signé le traité de Maastricht, quand on a voté oui au traité de Maastricht, quand on a fait démentir les Français qui a voté non au référendum de 2005, quand on les a fait démentir par le Parlement, c'est ni plus ni moins une forfaiture. Et donc, peut-être peuvent-ils penser avoir eu raison, mais c'est en aucun cas du gaullisme.
Alors, ce qui est assez fascinant, et je vais reformuler peut-être un peu ma question précédente, mais d'une certaine façon, le résistant et l'homme d'État se confondent. Est-ce que vous diriez qu'ils se confondent? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que le gaullisme politique est né sous la Résistance, quelque part?
Ah, je crois. Il faut relire les grands discours de De Gaulle de 42, 43, etc. C'est déjà très politique quand il dresse les contours de la France de demain, de la France de la libération. Quand il dit qu'il faut réagir contre l'instabilité institutionnelle. La constitution de la Ve République n'est pas encore fixée dans sa tête, mais elle sort toute armée en 46 avec le discours de Bayeux. Quand il dit qu'il faut réformer la société et l'économie pour avoir une économie plus juste, ça c'est les travaux du Conseil national de la Résistance qui lui sont soumis et auxquels il souscrit dès 1942-1943. L'idée que de la souveraineté qui n'est pas seulement importante en temps de guerre, mais qui est importante aussi en temps de paix, cette idée de la souveraineté, elle est constante chez lui. Donc oui, je crois que le gaullisme de guerre, il prépare le gaullisme politique.
Le gaullisme de guerre prépare le gaullisme de paix, quelque part. Autre point, je pense, qui est fondamental aujourd'hui dans la vision des Français de Gaulle, c'est que, on le verra peut-être dans la deuxième partie du film, je pense, mais que De Gaulle, c'est celui qui fait rentrer la France dans le camp des vainqueurs, en fait.
Absolument, absolument.
Ce qui n'était pas du tout gagné.
Alors, ce qu'on me dit, c'est que la deuxième partie, donc ça c'est plus rassurant, accorde une importance énorme au conflit avec les Américains, et notamment la lutte contre l'AMGOD, dont j'ai déjà parlé ici, qui est une chose très importante. L'AMGOD, c'était l'administration de la France, une administration militaire américaine qui aurait dû se substituer au gouvernement provisoire. Et ça, il paraît que c'est très bien vu. Il paraît que c'est très bien vu, donc... Dont acte, hein. Voilà. Mais j'ai
attends,
pas vu.
Mais attendons de voir. Mais cela étant, sur le principe, encore une fois, c'est vrai que le général de Gaulle, en se situant à Londres, malgré une situation conflictuelle permanente avec les Américains et avec Churchill aussi, d'une certaine façon, conflictuelle dans le sens, je dis pas que c'est forcément en opposition, mais au moins en tension.
Il y avait des disputes homériques, des réconciliations qui ne l'étaient pas moins, mais il y avait un respect évident.
Et à la fin, effectivement, reste que de Gaulle place la France dans le camp des vainqueurs.
Bien sûr. Et ça, c'est parce qu'il a pu déjouer l'AMGOT, qu'il a pu installer les préfets de la Libération à la place des préfets de Vichy et à la place des administrateurs américains, et que finalement, ça a forcé les alliés américains et soviétiques à le reconnaître comme le seul détenteur de la légitimité. Mais c'était, ça n'a pas été joué facilement. Hein. Ça a été sur le fil, en gros, jusqu'en septembre 1944.
Ouais.
Septembre 44, c'est là où il est reconnu enfin par les Américains. Le gouvernement provisoire est reconnu comme la seule autorité légitime des Français. Et puis, il y a, faut pas l'oublier, la contribution considérable de l'armée de la Libération.
Oui, bien sûr.
Avec le débarquement de Provence. De Gaulle ne voulait jamais commémorer le débarquement de Normandie, mais il commémorait le débarquement de Provence parce qu'il a été fait par la première armée française de Delattre, qui a libéré la vallée du Rhône, qui a libéré l'Alsace, qui a tenu Strasbourg, que les Américains voulaient nous faire évacuer.
Oui.
Et donc ça, ça a été une contribution éminente, en plus de celle de la résistance intérieure. Car le débarquement, s'il a réussi, c'est aussi à cause des sabotages de la résistance. Voilà, les infrastructures qui avaient sauté, ça a permis aux Américains de pénétrer dans le territoire.
Bien sûr, et puis même l'état de tension constant dans lequel ils étaient, effectivement, forcément, ça a aidé. Écoutez, Éric Branca, je ne peux que vous inviter à revenir dans quelques semaines, donc après la sortie de la deuxième partie du film, effectivement, pour pouvoir analyser ça. Alors, ce ne sera pas sur Ligne Droite, on aura arrêté de diffuser, au moins sur Radio Courtoisie. On fera quelque chose si jamais ça vous convient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, je vous dis quand même à très vite à cette antenne.
Merci.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Ligne droite.
Merci. Alors, chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, nous retrouvons Éric Doutrebente. Éric Doutrebente, bonjour. Vous êtes fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendant, gérant des clients privés. Aujourd'hui, vous vouliez nous parler de la vente de SFR qui arrive qui était ce week-end, voilà, à un opérateur télécom détenu par Patrick Drahi. Elle a été annoncée aux trois autres opérateurs français. C'est une situation très complexe. Est-ce que vous pourriez nous l'exposer?
Alors, SFR, c'est un opérateur télécom et c'est la filiale de Altice. Altice est détenue essentiellement par Patrick Drahi, mais évidemment aidé par d'autres investisseurs. Alors, l'opération SFR, c'est la vente d'SFR à trois opérateurs. Donc, on va passer de quatre opérateurs en France à trois. Je parle des opérateurs locaux. On a à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est, 20 milliards d'euros, c'est l'offre de rachat. Elle se décompose en trois acheteurs. 42% de l'opération va être faite par Bouygues Télécom, qui va vendre la partie qui est l'offre dédiée aux professionnels et activités grand public, et aussi une partie d'infrastructure, dont le réseau mobile en zone faiblement dense. Deuxième acheteur qui va racheter donc 31% des 20 milliards 35 que j'ai évoqués, ce qui est l'offre de rachat, va être racheté par Free, donc le groupe Iliad de M. Niel, activité grand public et infrastructure, et évidemment c'est la partie low cost qui se renforce, plus aussi à peu près 400 000 abonnés et qui sont sur les TPE-PME. Et puis Orange va racheter 27%, va prendre la participation de 27% de ce deal, activité grand public et infrastructure. Pour revenir à Bouygues Télécom, ils achètent à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires et à peu près 6 millions de clients. Pour Free, c'est 6 millions de clients plus 400 000 professionnels TPE-PME. Et évidemment, Orange, c'est quasiment 5 millions de clients. Alors, c'est une opération très importante qu'on attendait depuis des années. Il ne faut pas oublier que M. Drahi a racheté en 2014 pour 17 milliards SFR qui étaient vendus à Vivendi à l'époque. Donc, c'était en 2014, avec une dette très importante puisqu'il avait fait un emprunt qui était un des emprunts les plus importants qui a été fait sur les marchés européen, puisqu'il avait emprunté quasiment 16 milliards de dettes. Aujourd'hui, il l'a acheté 17, il leur vend un peu plus de 20, et ça permet à Patrick Drahi de diminuer sa dette, puisque c'est vraiment ses opérations. Il a été une très très forte croissance depuis qu'il a commencé, et évidemment, il fallait qu'il se désendette, surtout avec l'état du marché. Alors, quand on regarde les nombres d'abonnés des quatre opérateurs, eh bien, on voit très bien que Orange reste leader avec la partie mobile qui est à peu près à 25 millions d'abonnés et la partie fixe à peu près 14. SFR était à 20 millions quasiment d'abonnés, dont avec 6 de la partie fixe. Free, 24 millions, 7 millions et Bouygues. Donc, on va avoir une recomposition du paysage sur les opérateurs, sachant que en 2025, les quatre opérateurs Orange étaient en baisse en termes de chiffre d'affaires, moins 2%. Sur SFR, on était à 9 milliards, moins 8%. Et évidemment, les deux plus petits, qui étaient Bouygues Télécom, étaient en hausse de plus 3,8% et Free 1,4%. Voilà une opération qui a été rondement menée, mais avec un négociateur très puissant qui est M. Draghi face à tous ces acheteurs.
Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous, consommateurs de forfaits de téléphone et Internet ?
Alors là, quand on voit ce qui s'est passé sur la partie autrichienne ou en Allemagne, ou plus récemment le Royaume-Uni, les prix ont plutôt eu tendance à monter. Alors l'État, paraît-il, va veiller au grain. L'ARCEP aussi, donc tout le monde est mobilisé pour que ça ne se passe pas comme ça. Mais il faut savoir que quand un deal se fait comme cela, il y a d'abord des histoires de garantie de l'emploi jusqu'en 2029, il y a plein de clauses concernant le prix, parce qu'aujourd'hui on vous parle de 20 milliards, mais ça peut être révisé à la baisse s'il y a trop de pertes, en fait d'abonnés qui disparaissent de SFR pour aller chez les autres, et donc le closing de l'opération, l'opération sera vraiment réalisé au deuxième semestre 2027, et sur le plan plus technique, le découpage opérationnel des infrastructures se fera aux environs de 2030. Donc prudence sur les prix comme d'habitude, passer de 4 à 3, ça peut permettre aussi aux opérateurs de remonter leurs prix. Donc vigilance, mais l'opération est quand même bien partie, ça permettra à M. Draghi de garder ses milliards d'investissements, que ce soit au Portugal, aux USA, en Israël, et de la République dominicaine, donc évidemment, M. Draghi est un amateur d'art, et donc il est le propriétaire à 100% de Sotheby's.
Merci beaucoup, Eric Doutrebande, d'avoir été avec nous ce matin, et on vous dit à la semaine prochaine, ici sur Ligne Droite.
Ligne Droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et pour cette revue de presse, nous retrouvons Gilles. Bonjour Gilles.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Franck, bonjour Alexandre. Nous sommes le 10 juin 2026 et le blog Le Salon Beige rappelle que le 10 juin 1534, Jacques Cartier est le premier Européen à découvrir le Saint-Laurent sur le continent nord-américain. Parti de Saint-Malo, il est arrivé à Terre-Neuve, puis le 10 juin, il découvre et commence l'exploration de l'estuaire d'un fleuve qu'il nomme le Saint-Laurent. Alors, rien ne va plus pour Donald Trump. Iran, inflation, popularité, la mauvaise passe de Trump, titre Le Figaro. Philippe Gély écrit dans son éditorial « Les contrariétés s'accumulent pour Donald Trump. Le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis qui tombe par un heureux hasard le même jour que ses 80 ans, le 14 juin, est au cœur de controverses. La fête est jugée trop politisée par divers artistes ayant fait défection. Son bras de fer avec l'Iran a dépassé les 100 jours sans trouver d'issue. Le détroit d'Ormuz reste fermé et la guerre menace de reprendre au risque d'embraser la région. L'impopularité de cette aventure militaire alimente celle du président tombé aussi bas dans les sondages que Joe Biden après le retrait d'Afghanistan en 2021. La hausse des prix du carburant et le niveau de l'inflation nourrissent le mécontentement, attise la nervosité des républicains à 5 mois des élections de mi-mandat en novembre. Mais du côté des démocrates, ce n'est pas non plus très rose, surtout que paraissent ces jours-ci les mémoires de Jill, l'épouse de Joe Biden, qui revient sur le déclin de son mari en même temps que la publication du rapport sur l'analyse de la défaite de 2024 après des mois de tergiversation. Il critique Joe Biden pour n'avoir pas assez soutenu Kamala Harris, raconte Hélène Vissière, correspondante du Figaro à Washington. Le rapport reproche aux démocrates leur incapacité ou leur refus constant d'être à l'écoute de tous les électeurs et leur focalisation sur la politique identitaire au détriment des sujets économiques. Mais à aucun moment, il ne mentionne l'âge de Biden ou le soutien à Israël et la guerre à Gaza, pourtant deux facteurs cruciaux de la défaite. Alors l'image du parti est toujours désastreuse. Selon un sondage du New York Times, plus de la moitié des potentiels électeurs démocrates se disent insatisfaits de ses positions. Ils le voient comme mou, frileux, déconnecté de leurs attentes, trop obsédé par les questions identitaires et de transgenre, trop laxiste en matière d'immigration. Et pour ramener dans leur giron les classes moyennes et rurales, les démocrates sont conscients qu'ils doivent se concentrer sur le coût de la vie, de la santé, en somme, les préoccupations des Américains jusqu'ici. Jusqu'ici, cependant, ajoute Hélène Vessière, le parti peine à trouver une vision et un message, car il est écartelé entre les ailes gauche et centriste, très divisé sur Israël ou l'immigration. Cependant, les démocrates ont remporté de nombreuses victoires lors des scrutins partiels depuis 2024 et semblent bien placés pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants en novembre. Ils ont besoin d'un gain net de 3 sièges seulement. En revanche, ils vont avoir plus de mal à gagner le Sénat, d'autant que leur candidat probable dans le Maine collectionne les scandales. Il s'est fait tatouer un symbole nazi et a échangé des messages à caractère sexuel avec plusieurs femmes, alors qu'il est marié. Et puis, la famille Biden n'en finit pas d'empoisonner le camp démocrate. Outre les mémoires de Jill, écrit encore Hélène Vessière, Joe prévoit de sortir ses souvenirs en septembre et de participer activement à la campagne des midterms. Quant à son fils Hunter, qui traîne de multiples casseroles, il se déchaîne sur X et se répand partout où il peut, y compris dans un podcast d'extrême droite. Une aubaine pour les Républicains, dont la famille Biden est une des cibles favorites. Voilà, c'est à lire dans le Figaro. Alors en France, le numéro de juin-juillet d'Éléments fait sa une sur la remigration, la question qui fait trembler le système. À la clé de ce dossier, des entretiens avec Renaud Camus, Jean-Yves Le Gallou, Martin Selner et Nicolas Pouvreau-Monty. François Bousquet, qui a dirigé ces pages, interroge d'emblée. Ce dossier pose une question simple et terrible. Une civilisation peut-elle survivre si elle renonce à sa continuité historique? Derrière les querelles juridiques, écologiques, sinon philosophiques, se joue autre chose, le droit des peuples européens à rester eux-mêmes. La remigration marque ainsi le retour du tragique dans la politique européenne. Elle dit que l'histoire n'est pas terminée, que ce qui fut politiquement organisé peut être politiquement inversé. Mais je vous encourage à lire l'article signé Thierry Dubois, contributeur aux 30 mesures pour une politique d'identité et de remigration, car il résume bien le projet. La remigration est l'inverse de l'immigration de masse, écrit-il. Le retour massif dans leur pays d'origine de la plupart des extra-européens, elle est une nécessité historique et la seule solution pour éviter le remplacement de la population et qu'Aimé Césaire appelait le génocide par substitution, c'est-à-dire le jeu des dynamiques démographiques conduisant à la mise en minorité toujours plus réduite d'une population indigène sur la terre de ses ancêtres. Alors parmi les répercussions de cette dynamique, il en cite quelques-unes, comme l'ultraviolence, le racisme anti-blanc, la criminalité et la délinquance endémique, l'importation de conflits sur notre sol ou la paupérisation. Si on demande à Thierry Dubois si les non-natifs seront-ils expulsés et les frontières hermétiquement fermées, il répond évidemment non. Dans les faits, rétorque-t-il, une approche pragmatique de la question impose de faire des choix. C'est la raison pour laquelle une politique de remigration ne s'oppose pas à une politique d'immigration, mais en est le complément. En fait, si l'on comprend bien le raisonnement de Thierry Dubois, l'immigration doit être scrupuleusement contrôlée et toujours accompagnée de l'éventualité du départ dans le respect d'un ensemble de règles strictes sans nuisance pour les autochtones. Alors, quelques chiffres à vous donner. Pour l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, le coût de l'immigration est évalué à 3 ou 4% du PIB, soit environ 95-100 milliards d'euros par an, principalement dû à la perte de productivité liée au faible emploi des immigrés et des descendants. Cela représente une perte de 45 milliards en recettes fiscales. Et pour terminer le sujet, je voudrais vous livrer le diagnostic de Nicolas Pouvreau-Monty, qui est l'auteur donc du livre « Immigration, mythe et réalité » paru chez Fayard. Et dans l'entretien qu'il donne à Élément, il dit que la France a à la fois l'immigration la plus africaine et la plus musulmane d'Europe. La moitié des immigrés vivant en France sont originaires du continent africain et parmi eux, 6 sur 10 viennent du Maghreb. Cette tendance s'emballe depuis 30 ans. Le nombre d'immigrés nés en Afrique subsaharienne a augmenté de 150% depuis 2006. C'est évidemment lié à la poussée démographique de cette région. L'Afrique subsaharienne n'ayant pas accompli sa transition démographique, à la différence de pays comme le Maroc ou la Tunisie. Voilà, vous retrouverez tout ce dossier intitulé « Remigration, la question qui fait trembler le système » dans la revue Éléments datée de juin-juillet 2026. Et puis le programme officiel de la visite du pape en France précise, comme l'écrit Michel Janvat sur le blog Le Salon Beige, le pape sera, on le sait, du 25 au 28 septembre en France. Il assistera le vendredi au Vêpres solennel à Notre-Dame de Paris. Et dans la soirée, cessera... assistera à une grande veillée de prière avec les jeunes, le samedi messe solennelle en plein air à Paris et le dimanche 27 dans l'après-midi grande messe à Lourdes sur la prairie face à la grotte et enfin le lundi 28 dans l'après-midi messe à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain.
Merci Gilles et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Toute petite précision, hein, quand je disais tout à l'heure que nous arrêtions la diffusion de Ligne Droite, ce sera pendant l'été. Notre dernière matinale, je crois, est le 26 juin. Nous faisons bien sûr une pause pendant l'été pour que les équipes préparent la saison prochaine et puis se reposent un petit peu parce que même Franck a besoin de vacances. Et Franck d'ailleurs.
Oui, bah même Emmanuel Macron, il vient de me le dire là.
On en a ras-le-bol.
On en a ras-le-bol. Voilà. Et on en a surtout quelque chose qu'on n'a pas ras-le-bol, c'est de vos
oui,
dons.
Oui, ça c'est sûr. On n'a pas la tirelire qui arrive jusqu'en haut. Soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne dès maintenant et aider Radio Courtoisie à se financer puisque vous êtes les seuls à participer au compte en banque de Radio Courtoisie. Continuons le combat ensemble. Défendons vos idées ensemble. Soutenir.rc.fr. Soutenir.rc.fr. Merci.
Merci Franck et tout de suite on écoute Romain Lemoigne, maire de La Flèche, qui nous raconte la conquête de l'Ouest par le Rassemblement National.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons revenir un petit peu sur les municipales et sur finalement la vie que peut mener un maire RN. On a fait quelques entretiens dans ce genre, chers auditeurs, vous le savez, ces dernières semaines. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Romain Lemoigne. Romain Lemoigne, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors, vous êtes maire Rassemblement National de La Flèche. Alors, vous avez quand même été le premier à conquérir une moyenne ville, disons, dans la région, tout d'abord. Quelque part, comment vous avez vécu le choc, quelque part? Comment même la région elle-même s'est-elle remise du fait d'avoir un maire Rassemblement National sur ses terres?
Je crois que le premier choc, ça a été pour l'équipe adverse, si j'ose dire, puisque la ville de La Flèche, en fait, était gérée par le PS depuis près de 40 ans. Mmh. Il y avait besoin de changement et de renouveau. Et moi, ce que j'espère, c'est bien sûr réussir et montrer l'exemple pour permettre aussi de belles victoires dans la région à l'avenir.
Et alors finalement l'Ouest en général, les pays de la Loire pour faire simple, ont toujours été très réfractaires, disons, au Rassemblement National. Comment vous expliquez justement votre propre victoire en fait à La Flèche?
Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Il y avait effectivement une lassitude aussi de beaucoup d'habitants face à une gestion socialiste chaotique, hein, dans une ville qui était au bord de la tutelle, extrêmement endettée, l'insécurité progresse, un manque de proximité des élus. Mais je dirais aussi qu'il y a une forme de vote d'anticipation, parce qu'il est vrai que La Flèche est une ville moyenne relativement préservée de plusieurs grands problèmes du pays et qu'on peut connaître dans d'autres régions. C'est une ville globalement paisible et je pense effectivement que beaucoup d'habitants en fait, ne veulent pas que La Flèche devienne une ville où la qualité de vie est détériorée, où on ne peut plus sortir le soir. Et je pense qu'il y a vraiment ce vote d'anticipation. C'est peut-être un nouveau facteur qu'on n'a pas forcément vu par ailleurs, parce que parfois, peut-être que nos électeurs réagissaient à des problèmes existants sur leur territoire. Et là, je dirais que pour le coup, c'est plus un vote d'anticipation de problèmes qui pourraient s'aggraver à l'avenir.
Mmh. Et alors, ça fait quand même des années que vous, Romain Lemoigne, vous labouriez la circonscription, notamment avec Marie-Caroline Le Pen. Alors, selon vous, justement, comment ça se fait que... est-ce que quelque part, c'est le fruit, on imagine, d'années d'efforts aussi du Rassemblement National? Parce que la Sarthe, encore une fois, n'est pas forcément une terre dans laquelle... votre parti a beaucoup d'élus de manière générale.
Oui, tout à fait. On mène un travail d'implantation depuis quelques années et qui je pense, voilà, a apporté ses fruits. Après, là, en l'occurrence, c'est une campagne municipale. Donc, comme son indique, axé sur la ville de la Flèche, en tout cas pour ma part. Mmh. Et vraiment, je crois avoir eu un programme qui répondait aux attentes des habitants de manière humble, je pense qu'il était le bon, puisqu'en plus, pour l'instant, notre début de mandat se passe bien, même si on a une opposition de gauche très, très véhémente, peut-être qu'on y reviendra.
Mmh, oui.
Mais après, oui, je pense aussi qu'il y a un autre facteur, c'est que en Sarthe, il y avait avant une figure tutélaire qui était Fillon, ou le fillonisme dans sa manière globale. Et ça, c'est une figure tutélaire qui s'essouffle, enfin, qui est même plus qu'essoufflée, puisqu'elle a quasiment disparu. Et forcément, les Sartois veulent du changement, du renouveau, une nouvelle ère, je pense. Et j'espère évidemment que la victoire à la Flèche est le début. Mais moi, ce qui m'importe personnellement, c'est bien sûr que mon mandat se passe bien à la Flèche et qu'il soit utile aux habitants.
Oui, parce qu'en fait, vous êtes finalement assez isolé, on va dire, en termes de, au niveau du Rassemblement National dans votre région, mais vous êtes aussi quelque chose qui est sans doute peu commun pour ces habitants, mais c'est que vous avez 25 ans, si je ne m'abuse, donc finalement vous êtes un très jeune maire. Comment ça se passe, même au niveau à titre personnel, pour vous de vous retrouver aujourd'hui à la tête de 15 000 habitants à gérer, alors qu'à nouveau, encore une fois, vous ne pouvez pas non plus vous baser sur tout le tissu de Rassemblement National qui existe plus dans le sud de la France ou alors dans le nord, dans les régions où vous avez plus de mairies?
En fait, bon, bien sûr, ce ne sont pas forcément toutes des grandes villes, mais il y a quand même un certain nombre de maires dans la région qui ne s'affichent pas ostensiblement RN, mais qui en ont les convictions, voire même l'adhésion d'ailleurs. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a eu un effet médiatique sur la Flèche, parce que c'est une ville sous-préfecture importante et connue. Il y a d'autres villes aussi où il y a quand même des maires qui sont très proches de nos idées. Mais c'est vrai qu'en termes d'implantation militante, on n'est pas dans une fédération du Sud où il y a 3000 adhérents et où le parti est présent depuis 10-15 ans. Mais je pense qu'on est en train de faire un beau travail. On va continuer ainsi pour que notre travail soit utile, encore une fois, pour les habitants de la Sarthe. Mais pour revenir à votre question, c'est sûr qu'à 25 ans, ça peut sembler un très gros défi. Mais effectivement, c'est non seulement très enthousiasmant, très galvanisant, puisqu'on voit la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Mais je suis très bien entouré. J'adore cette ville en plus. J'ai une très bonne équipe d'adjoints. Et franchement, je pense que c'est peut-être même le plus beau mandat qui puisse exister. Alors, je ne fais que débuter, ça fait seulement 2 mois et demi, mais la relation que j'ai tissée avec les habitants, le fait qu'on puisse commencer à voir sa politique mise en place, c'est très gratifiant, et encore une fois, c'est peut-être le mandat le plus concret.
Et alors, justement, ça fait que 2 mois et demi que vous êtes ici, mais vous faites déjà de quoi faire hurler l'extrême gauche. Ça, c'est quelque chose, c'est évidemment... Comment ? Oui, c'est plutôt bon signe, comme vous dites, oui. Il s'est créé dans la foulée des élections municipales l'Observatoire des mairies RN. Alors, qui vous accuse notamment d'avoir commis un acte de lèse-majesté, autrement dit d'avoir baissé les subventions de 50 000 euros pour l'association Le Carreau, pour le concert des Apartés, pardon, donc des concerts gratuits à 50 000 euros pendant tout l'été que vous avez supprimé. Expliquez-nous.
Oui, c'est vrai que le concept est un petit peu drôle. D'ailleurs, merci à cet observatoire pour la pub, parce qu'en fait, il a révélé ce que pratique la gauche depuis des années. Donc, effectivement, la gratuité culturelle, ça n'existe pas, ou quasiment pas. Sur l'occurrence, comme vous l'avez souligné, les concerts dits les apartés étaient certes gratuits sur le papier, mais en fait, étaient donc financés par le, par le contribuable fait choix et cette suppression des apartés, des spectacles qui ne marchaient pas beaucoup, hein, parce que sinon ils l'auraient gardé, hein, c'est des spectacles l'été qui réunissaient que quelques personnes, en fait, une forme d'entre-soi gauchiste, faut dire les choses, parce que c'est un spectacle assez orienté. Et encore une fois, ce choix-là, c'est le choix de l'association. C'est-à-dire que nous, on n'a pas supprimé les spectacles. C'est l'association qui a choisi de les écarter. Mmh. Par ailleurs, enfin, bien préciser quand même que la subvention qu'on a accordée au Carrois, c'est plus de 500 000 euros encore. C'est-à-dire qu'on a certes baissé. On l'a baissé à juste titre parce qu'on peut pas continuer comme ça. Et surtout, il y a d'autres priorités. On peut pas tout accorder à la culture. Surtout celle-ci, mais plus de 500 000 euros de subvention directe, et c'est environ 1,3 million si on compte les subventions indirectes du style mise à disposition de salles. Donc c'est quand même beaucoup énorme, et encore une fois, c'est parfois très utile, hein, parce que je suis pas du tout contre la culture, bien au contraire, mais encore une fois, c'est un coût assez important, et il y a aussi d'autres priorités comme la sécurité, le bon vivre, qu'on ne peut pas délaisser.
Oui, parce que alors, le budget de la ville, si les informations que j'ai trouvées sont correctes, c'est autour de 25 millions d'euros plutôt. Et donc 500 000 euros sur ces 25 millions d'euros étaient dédiés à cette association culturelle de gauche. Effectivement, et on voit que finalement, c'est pas forcément le RN qui s'attaque à la culture, c'est peut-être parfois la culture qui s'en prend aussi au RN, dans le sens où vous avez eu aussi, je pense, ce que vous avez dû vivre personnellement comme un grand drame, Mazarine Pinjot qui a annulé sa venue dans votre ville parce que vous êtes du Rassemblement National.
C'est cela. Je suis très déçu pour les centaines de milliers de Féchois qui voulaient venir la voir. Je pense qu'ils n'étaient pas nombreux, mais voilà, là aussi c'est pareil, c'est un acte d'entre-soi militant et c'est ce que je dis. Moi, je suis pas pour refuser des festivaliers ou des artistes ou des auteurs. Si elle était venue, ça aurait été sans doute très bien pour les Féchois qui voulaient la voir. Mais encore une fois, c'est elle qui a choisi de pas venir. Donc, la preuve, nous ne sommes pas contre la culture. On est bien pour la diversifier et en étendre le programme, une culture plus populaire et peut-être moins élitiste. Mais sûr que Madame Pinjot était de la bienvenue si elle voulait venir. Mais bon, elle a privé ses lecteurs de sa venue, tout simplement.
D'une certaine façon, en fait, on va pas faire la liste exhaustive de tout ce que vous avez baissé, mais en réalité, voilà, je voyais aussi une information selon laquelle, voilà, vous auriez également baissé des subventions pour une association d'accueil aux migrants. Enfin voilà, il y a quand même des choses comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, en réalité, de faire des coupes dans votre budget? Est-ce que c'est parce que, quelque part, vous vouliez justement mettre fin à un entre-soi de gauche qui pouvait exister et subsister? Ou alors, est-ce que c'est par nécessité financière, parce que, justement, 40 ans de gestion socialiste, c'était trop?
C'est bien, comme vous dites, le second point, parce qu'en fait, quand on a 19 millions d'euros d'endettement, 19 millions, c'est plus de 1 000 euros de dette par habitant, donc une capacité de désendettement à plus de 10 ans pour la vie de la flèche, mais il faut dire stop et effectivement faire des économies et écarter les subventions qui sont soit injustifiées ou soit pas utiles, et en tout cas pas immédiatement. Et forcément, une association d'accueil aux immigrés, ça profite pas aux fléchois. C'était environ 5 000 euros, alors c'est pas non plus énorme, mais c'est 5 000 euros, c'est de l'argent public. Il n'y a pas de mauvaise économie, et donc voilà, c'était un choix qui était tout à fait évident et assumé.
De manière générale, il nous reste 3 minutes, Romain Lemoine, mais de manière générale, le dilemme auquel font face beaucoup de maires du Rassemblement National qu'on a pu interroger, c'est qu'en réalité, ils se retrouvent avec des villes qui sont effectivement pas mal endettées par la gestion socialiste, et en même temps, c'est des gens qui doivent aussi, en tant que maire, faire fonctionner, faire tourner la ville, la désendetter et mener des investissements aussi pour rendre leur ville plus attractive. Vous, est-ce que vous avez des projets justement dans ce sens? Quelle est votre doctrine politique, quelque part, en termes de gestion économique?
En fait, c'est très simple, je dirais, en tout cas sur le principe. C'est une gestion à l'euro près. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a pas de dépenses superflues, chaque politique est contrôlée, chaque dépense publique est contrôlée. Et moi, je le vois même dans les devis qui me sont remontés. C'est-à-dire que je fais extrêmement attention à ce qui est engagé et signé, et on remarque très vite. On fait des économies de quelques milliers d'euros et au bout du compte, ça fait une certaine somme. Il y a aussi un autre point, c'est que nous, dès notre premier budget, donc le 30 avril dernier, on n'a pas fait de recours à l'emprunt pour désendetter la ville, ce qui ne nous a pas empêché d'augmenter le budget d'équipement, et donc d'investissement. comme quoi c'est possible quand on fait des choix. Alors, bien sûr, ça exige du maire et de son équipe d'aller dans le cœur du budget.
Et sans augmenter les impôts ?
Sans augmenter les impôts, tout à fait. Alors, forcément, ça, on a eu un mois de travail sur le budget qui était un chronophage, jour et parfois de nuit aussi. Mais je pense que c'est aussi la vocation du politique de ne pas laisser, entre guillemets, aux techniciens un dernier mot là-dessus, parce que c'est, encore une fois, le budget, c'est la société du politique, c'est l'argent du contribuable. Et nous, on a décidé de regarder ligne par ligne sur le budget, de voir les économies possibles. En réalité, il y en a un paquet. Et encore une fois, là, notre budget, je crois qu'il est bon et qu'il va permettre aussi bien à la collectivité de fonctionner que de rattraper progressivement notre retard en matière d'investissement, puisque la ville, encore une fois, à ce niveau-là, est très, très en retard. Il y a des complexes sportifs, notamment, qui prennent l'eau. Donc, c'est, voilà, 40 ans socialisme, c'est... Forcément, ça laisse des traces.
Oui, effectivement. Et alors, peut-être pour conclure en quelques secondes, évidemment, donc c'est une ville qui est liée aussi au lycée, enfin au Prytanée militaire, la Flèche. Enfin, c'est une ville qui est quand même connue pour cela. Est-ce que justement, vous devez avoir des habilitations particulières, un travail particulier justement avec l'État du fait de la présence du Prytanée?
Ah oui, effectivement, c'est une vraie chance pour la Flèche, tout comme le zoo d'ailleurs. Il y a plein de monuments. Mais c'est vrai que le Prytanée, on en est extrêmement fiers et moi aussi à titre personnel. Alors, vu que c'est un lycée de défense, donc qui relève du ministère de la Défense, on a sur le papier peu de liens, parce que forcément, c'est pas de lien explicite avec la ville. Toutefois, on est bien sûr très, très proche du Prytanée, notamment pour les cérémonies, puisqu'en fait, chaque commémoration, le Prytanée est présent avec sa fanfare. C'est quand même un privilège. Je le vois être très, très privilégié d'avoir cette chance-là. Et puis, moi, ce que j'essaie de faire avec le Prytanée, c'est de maximiser le nombre notamment de concerts ouverts, puisqu'il y a cette fanfare. Et donc le but, c'est aussi d'ouvrir le Prytanée dans la mesure du possible, parce qu'encore une fois, c'est un lycée de défense. Et pour tout ce qui est spectacle, concert gratuit, les Fushop puissent y accéder. Parce qu'en plus, c'est une très, très belle. Enfin, un très très bel établissement et qui est chargé d'histoire et à l'intérieur c'est magnifique. C'est aussi joyeux.
Et voilà, et gratuit et pas 50 000 euros cette fois-ci. Effectivement, merci beaucoup Romain Lemoine d'avoir été avec nous ce matin, effectivement, pour présenter écoutez, les premières orientations de votre nouveau mandat. Écoutez, sans doute qu'on vous recevra à l'avenir pour voir un petit peu toutes ces évolutions et peut-être les nouveaux projets que vous mettrez en œuvre. Merci beaucoup.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette matinale avec nous ce matin. C'est la fin de Ligne Droite, mais juste avant que vous puissiez enfin partir, il faut que nous vous demandions quelque chose.
Voilà, enfin c'est la fin pour aujourd'hui, on revient demain à 7h, ne faites pas peur à tout le monde Alexandre. Soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne, participer au financement de Radio Courtoisie, nous avons besoin de vous, nous vous le rappelons chaque jour. Alors si vous le pouvez, en fonction de vos moyens, aidez-nous, soutenir.rc.fr. Merci.
Et quel est le programme du jour, Franck ?
Dans quelques instants, la vie de Michel de Saint-Pierre, écrivain résistant et mousquetaire de Dieu, avec les écrivains Rémi Pierry, Thierry Bouclier, Isaure de Saint-Pierre. C'est dans Au fil des pages de Benoît Mancheron. À midi, le libre journal des économistes d'Olivier Mérès. À 17h, le RC Mag de Jean-Étienne Posa, aujourd'hui de la DAS à la République chaotique 747, le rappeur qui dit non aux dérives. On l'avait passé dans le temps, dans Ligne Droite, ça. 17h30, le Restons Courtois d'Arthur de Vatrigan, guerre au Moyen-Orient, la menace de nos portes. 19h30, le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Bernard Anthony. 21h30, Dieu, l'islam et Sainte Jeanne d'Arc, entretien avec le père Fabrice Loiseau dans le libre journal des débats de Charles de Meyer. Enfin, à 23h, la soirée musicale en compagnie d'Axel. Vous entendrez des œuvres de Dvorak.
Superbe et très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous, demain, on recevra Michel Fayad. Mais c'est le moment où je vous dis au revoir de mon côté.
Au revoir.
À demain, 7h.